Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette nouvelle semaine de Soir Info en votre compagnie. Comme d'habitude, Soir Info vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit sans aucune interruption. Autour de la table ce soir, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Maxime Thiebaud, maître Thiebaud, avocat de son état, Jean-Sébastien Ferjouet et de la partie ce soir. Bonsoir cher Jean-Sébastien, du côté de la police-justice, Amaury Bucaud, bien sûr, comme chaque soir, Karim Abrik de la rédaction et Yoann Uzaï du service politique. Bonsoir à tous les trois, merci d'être présente. Ne perds pas de temps dans ce Soir Info parce qu'encore une fois, comme chaque soir, beaucoup d'actu à évoquer ensemble. Et bien sûr, d'abord, ce vote historique qui a eu lieu aujourd'hui. Le Parlement français réuni dans un congrès organisé au château de Versailles pour voter la révision constitutionnelle qui a entériné l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution. Sans surprise, la décision est largement votée avec 780 voix pour cette adoption, 72 contre sur les 3/5 de voix nécessaire. Regardez cette séquence juste après le vote favorable, donc.
Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. 72.
Voilà, pour cette tour Eiffel également, qui, vous l'avez vu en fin de journée, s'est illuminée aux couleurs ou pour l'hommage de cette entrée dans la Constitution. On va bien sûr rentrer dans le fond quelques instants et donner nos commentaires les uns les autres. Mais d'abord, c'était l'engagement du président de la République, son grand engagement. C'est la façon dont Emmanuel Macron va rentrer dans l'histoire.
Espérons qu'il y ait autre chose à retenir de son quinquennat, de ses deux quinquennats successifs. Mais effectivement, là, vous me prenez un peu de court et pour l'instant, je ne vois pas bien ce qui va rester du.
C'est une réponse en soi.
Oui, je ne vois pas bien ce qui va rester des 7 années du président de la République qui a fait des réformes et des grandes réformes symboliques qui marqueront l'histoire. Là, sincèrement, non, je ne vois pas. Si c'était un engagement, effectivement, du président de la République, qu'il a pu tenir d'ailleurs grâce aux oppositions.
Hein, qui sera entériné le 8 mars. D'ailleurs, je me permets juste de vous interrompre une seconde pour qu'on voit le tweet du chef de l'État tout à l'heure et vous reprenez bien sûr Johan Emmanuel Macron qui s'est félicité sur les réseaux sociaux, appelant donc au rendez-vous du 8 mars, place Vendôme, pour entériner cette entrée dans la Constitution. Fierté française, message universel, célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Pardon, Johan.
Je vous disais, promesse qu'il a pu tenir grâce effectivement aux oppositions qui ont voté en très grande majorité pour cette réforme constitutionnelle. Après, pour répondre à votre question, s'il espère rentrer dans l'histoire grâce à cette réforme constitutionnelle, c'est quand même un peu triste pour lui parce que ça signifie qu'il n'a rien d'autre à retenir de ces 10 ans qu'il aura passé à l'Élysée. Alors il espérait rentrer dans l'histoire, par exemple en recevant le prix Nobel de la paix. On sait que c'est quelque chose qu'il aurait bien aimé avoir. On sait qu'il aurait aimé, par exemple, pouvoir mettre autour de la table les Russes, les Ukrainiens, pour signer un traité de paix, etc. Manifestement, c'est mal engagé. Donc pour l'instant, effectivement, c'est la réforme peut-être la plus symbolique de ces 7 années à l'Élysée.
Mais le président de la République qui peut en effet se satisfaire de faire de la France le premier pays au monde, Karima, d'ici le 8 mars, donc a priori à inscrire dans sa constitution, avec pour la première fois aussi une femme présidente à l'Assemblée nationale. Elle l'a relevé d'ailleurs, Yael Braun-Pivet. Image donc dans tous les sens du terme hautement symbolique aujourd'hui et qui honore notre pays.
Oui, c'est une journée quand même importante, je dirais, même pour le mouvement féministe, pour les femmes. Ça envoie un signal très fort de cette fameuse marche des femmes pour obtenir des droits. Oui, certains diront que ce droit n'était pas menacé, mais de l'inscrire dans la Constitution, il y a quand même quelque chose de profondément symbolique et c'est pas pour rien que ça peut faire réagir. Que ce soit le premier pays également qui inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution, je pense que ça envoie un message au monde entier aussi. Est-ce que d'autres pays suivront? À tout le moins, je trouve que ça envoie ce message qu'il y a des pays qui luttent pour limiter le droit à l'IVG. On en pense, peu importe. Hein. Après ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais pour ce qui est du droit à cette liberté, il y a des pays qui luttent pour limiter, voire restreindre, voire complètement ne pas donner cette possibilité aux femmes. Et il y a d'autres pays, au contraire, qui décident de l'inscrire dans la Constitution. C'est le cas de la France. Alors oui, c'est quelque chose de très fort pour les Français, pour les Françaises, bien sûr, et pour le monde entier, pour ce symbole que ça envoie.
D'ailleurs, le Premier ministre, qui a tenu un discours avant le vote, a rappelé l'intérêt et les raisons de cette entrée dans la Constitution.
Beaucoup semblent dire que l'IVG ne serait pas menacée. Comme si, au fond, le sens de l'histoire était inévitable. Comme si le politique n'avait plus son mot à dire. Comme si ce qui était acquis l'était pour toujours. Je le réfute. Clairement, et formellement. Et ce faisant, j'ose le dire, oui, la liberté d'avorter reste en danger, consubstantiellement menacée. Car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. Simone de Beauvoir, encore une fois, avait raison.
Je vais rappeler une chose importante, quelques chiffres, Jean-Sébastien Ferjou. 7 médecins italiens sur 10 refusent de pratiquer l'avortement. Il est quasiment interdit en Pologne, pour ne parler que de nos proches voisins. C'est un droit qui recule, ça on l'a tous vu il y a quelques mois, dans beaucoup de pays, comme les États-Unis, pour ne citer encore une fois que la première puissance mondiale. La position de la France, encore une fois, c'est un message fort, un message politique fort, et je viens d'en faire une forme de démonstration. C'est un droit qui reste menacé dans beaucoup de pays occidentalisés et évolué. Comme on dit, enfin, j'ai pas le mot qu'il faut, mais de pays modernes et civilisés. Pardonnez-moi, voilà.
Mais alors, pour être clair, moi, je pense que l'avortement est une liberté absolument fondamentale et essentielle, et que trop de femmes ont perdu leur vie au cours de l'histoire, justement parce que on ne pouvait pas pratiquer des avortements dans des conditions médicalement acceptables. Pour autant, je ne crois pas du tout que ce soit un moment historique.
Ah bon ?
Déjà parce que juridiquement, mais alors quand Madame Braun-Pivet, qui soit dit en passant en 2018, nous expliquait à l'Assemblée nationale au micro pourquoi elle était contre l'inscription dans la Constitution, donc on voit que les convictions peuvent être parfois géographiques.
Mais c'est pas un mal en soi. Il y a beaucoup de gens qui changent d'avis au cours de leur existence, hein, et oui, on peut en être aussi nous la preuve vivante.
Il est rare qu'on change d'avis sur quelque chose qu'on définisse comme absolument historique, mais surtout quand elle dit que c'est irréversible. Elle n'est pas la seule à l'avoir dit, Emmanuel Macron le dit aussi, c'est juridiquement parfaitement faux. Que prévoit le nouvel article 34 de la Constitution ? Il prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à l'avortement. Donc autant vous dire qu'une majorité simple, elle peut très bien voter une autre loi, par exemple rétrécissant le délai légal dans lequel on peut pratiquer des avortements, vous le mettez à 8 semaines. Vu la pénurie de moyens médicaux qui existe, je peux vous garantir que de facto, sans avoir besoin juridiquement de repasser par la case congrès ou de l'effacer de la Constitution, vous avez remis en cause l'avortement.
Alors vous dites ce soir, ce congrès, cette entrée dans la Constitution, c'est de la poudre aux yeux ?
Mais vous savez, c'était dans la Constitution yougoslave, hein, me semble-t-il, ça ne l'est plus. D'ailleurs, la Yougoslavie n'existe plus. Donc je ne vous dis pas qu'il faut s'en réjouir. Je vous dis juste que je m'inquiète de cette illusion qui consiste à penser que la parole soit performante, que parce qu'on a inscrit les choses dans des textes juridiques ou même qu'on les inscrit dans un bloc de constitutionnalité, le combat serait terminé. Le combat aujourd'hui, c'est celui de l'effectivité des droits. Il y a des départements dans lesquels il est très difficile pour les femmes d'accéder à l'avortement. Donc ne cédons pas à ces facilités, mais vraiment ce sont des facilités. La démocratie est un combat sans cesse renouvelé. Je ne vous dis pas que...
Non mais que des voies juridiques ou légales permettent dans un futur plus ou moins proche de revenir sur ce qui vient d'être fait aujourd'hui, c'est une chose et on l'entend parfaitement. Franchement, je ne sais pas si on explique quand même. Encore une fois, il y a un symbole très fort et un message envoyé au monde entier qui est envoyé aujourd'hui. Et je pense que ça, ce n'est pas à prendre à la légère non plus. Quand bien même, vous venez de démontrer que par des voies juridiques ou légales...
J'entends cette démonstration, mais dans ce cas-ci, elle est valable aussi pour tous les autres droits qui, à ce moment-là, qui pourraient être inscrits, qui sont inscrits dans la Constitution.
C'est bien, il n'y a pas de Constitution au Royaume-Uni et il me semble que pourtant, ils ont inventé la démocratie libérale avant nous.
Tout peut changer.
Moi, je crois qu'il faut se battre au quotidien.
Ça, c'est vrai. Tout peut changer et ça, c'est vrai. Cela dit, ça donne quand même une protection.
Et ça ne dit pas que le combat est fini, hein?
C'est ça. Eh bien, c'est un peu comme sur la question de la laïcité. Hein, si on veut élargir, c'est un combat tous les jours. On a beau inscrire ça et se dire que ça fait partie, oui, des grands principes en France. Néanmoins, on voit que dans la pratique, pour l'effectivité comme telle, comme vous dites, c'est vrai. Cela étant dit, ça rajoute quand même une protection bien de sûr. Plus. Parce qu'après, si vous voulez changer des choses, il faut passer à être au...
Ça complexifie 3/5e, un éventuel retour en arrière.
Mais Manon, il suffit de changer les conditions de la loi. Ça, c'est une loi simple.
Non, mais ce que je veux dire, quand même,
si vous changez, sur si cette vous avez une alternance et que vous changez la composition du Conseil constitutionnel, mécaniquement, avec, vous avez 10 ans, par exemple, d'un pouvoir différent qui aurait une idéologie très différente, vous aurez changé la composition du Conseil constitutionnel.
Oui, mais justement, il n'y a rien qui est immuable, mais à l'heure où on se parle, quand même, je trouve.
Oui, bon, avant ça, personne ne remet ce droit en cause en France, c'est la
mais on rajoute quand même une protection s'il faut passer à 3/5e. Après, sur l'effectivité,
bon, s'il vous plaît, on a compris. Maxime Thiébaut, je voudrais qu'on avance un petit peu. Il y a certains qui regrettent cette décision. Je note la communication du Vatican aujourd'hui qui a dénoncé, on va le voir, le droit à supprimer une vie humaine. Il faut entendre toutes les voix. C'est pas la question, mais peut-être quand même de notre côté à nous, en tout cas, s'incliner devant la volonté du peuple souverain qui s'est exprimé par le biais de 925 parlementaires démocratiquement élus.
Alors, il est indéniable qu'aujourd'hui, on a envoyé un message à l'international. Plutôt que garantir une effectivité du droit interne. Parce qu'en réalité, comme l'a très bien dit Jean-Sébastien, c'est que, en fait, le droit est déjà garanti pour les femmes en France. La vraie problématique, c'est l'accès au service public. Quand vous voyez.
Et ça, en revanche, malheureusement, la séquence du jour ne change rien.
On ne va pas le garantir. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a un peu de poudre aux yeux. On est au Congrès, c'est magnifique, on a une belle intervention, on a de beaux principes, mais derrière, le service public est quasiment inexistant ou de plus en plus inexistant. Vous avez 25% des femmes qui n'ont pas accès à des soins gynécologiques en France. Vous avez 130 centres d'IVG qui ont fermé depuis peu. Et ça me dérange. Il y a un côté un peu hypocrite. Et si vraiment on voulait défendre aujourd'hui les femmes, on leur permettrait un réel accès à ce service public et un vrai accompagnement, parce que je pense qu'il n'y a pas plus grande souffrance pour une femme que de la décision de prendre d'avorter. On sait très bien que de nombreuses femmes souffrent de prendre cette décision, à la fois pour les raisons qui les ont conduites à tomber enceinte, ou les raisons qui les poussent à... Effectivement, et je pense que l'essence du message de Simone Veil était celui-ci, c'était de garantir en fait une justice, pour que plus aucune femme ne meure en France parce qu'elle veut avorter, et en sachant toute la souffrance qui accompagne l'avortement. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé. Alors oui, on envoie un beau message à l'international d'une civilisation qui est ouverte, libérale, etc. Très, très bien. Mais d'un point de vue interne, est-ce qu'on ne fait pas preuve d'une certaine hypocrisie alors que le service public périclite depuis de nombreuses années et que l'accompagnement qui doit être celui des femmes est de moins en moins effectif?
Ça peut être une impulsion, peut-être aussi.
Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'en fait, on vient simplement combler un manque de service public.
En tout cas, Gabriel Attal, qui a voulu rendre évidemment solennel également ce moment par ses mots, par son discours, il a rappelé le combat de celles qui se sont battues dans l'histoire pour obtenir ce droit immuable désormais.
Ce jour où nous pouvons ensemble, unis, plein d'émotions, changer notre droit fondamental, notre loi fondamentale pour y inscrire la liberté des femmes enfin. Car nous avons une dette morale envers toutes ces femmes qui ont souffert dans leur chair comme dans leur esprit, parfois jusqu'à y perdre la vie. Oui, ces femmes mortes pour avoir voulu être libres nous hantent. Oui, les aiguilles des faiseuses d'anges nous hantent. Oui, ces échappées clandestines pour avorter à l'étranger la peur au ventre nous hantent. Oui, nous sommes hantés par la souffrance et par la mémoire de tant et tant de femmes qui, des décennies durant, ont souffert de ne pas pouvoir être libres, allant jusqu'à parfois payer du prix de leur vie l'injustice que le législateur, exclusivement masculin, voulait maintenir sur elles.
En effet, aboutissement du long combat des féministes. Deuxième victoire pour Simone Veil, a rappelé Gabriel Attal, ce qui a titillé l'oreille de Jean-Luc Mélenchon, qui est venu un petit peu perturber tout cela. Attal, minable petit, Invisible, le rôle des insoumis et de la présidente Mathilde Panot dans la décision d'aujourd'hui. Sexisme et sectarisme typique d'un homme sans consistance qui n'a jamais mené aucun combat de long terme. Alors j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'en prend autant au Premier ministre. C'est vrai que, et le groupe parlementaire LFI sur Twitter nous l'a rappelé, c'est vrai, Johan Usaï, que Mathilde Panot et Simone Veil sont à mettre véritablement sur un pied d'égalité, comme a voulu le faire le groupe parlementaire France Insoumise. Aujourd'hui, si on peut envoyer, s'il vous plaît, Thomas Leroy en régie, à ce poste envoyé il y a quelques heures à peine par le groupe parlementaire de la France Insoumise, face à face, Simone Veil et Mathilde Panot, face à l'histoire, les deux grandes femmes, donc, qui nous avons inscrit la loi Panot dans la Constitution. Ce vote historique a été arraché de notre victoire parlementaire en 2001, mais surtout grâce au combat de militantes, collectifs, associations, que nous pouvons faire un commentaire sur cette façon de se mettre sur le même pied, à la même auteur, pardon, que Madame Simone Veil.
Non, mais entre ça et le tweet
de Jean-Luc Mélenchon,
c'est délirant. Mais qui sont ces gens, honnêtement? Mais ils sont en train de devenir fous. Ils sont collectifs.
Après, on va rendre à Mathilde Panot ce qui appartient à Mathilde Panot. Elle s'est battue pour ce combat.
L'initiative vient d'eux.
Elle est à l'initiative.
Mais pas le texte retenu.
Non, mais elle s'est battue naturellement. Mais Aurore Berger aussi, c'est quelque chose qu'elle porte depuis des années. Par exemple, la ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, par ailleurs, au sein de la majorité, qui se sont battues pour cela, qui soutenait cela depuis très longtemps. Mais enfin, pardon, le tweet de Jean-Luc Mélenchon est lunaire.
Attal, minable petit, invisible, le rôle des insoumis de la présidente Panot.
Je vous dis que la France insoumise, collectivement, ces gens-là, ces députés, ces responsables politiques, sont devenus fous. On pourrait reparler de ce qui s'est passé à la France insoumise depuis des mois et des mois. Et l'image, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'image de Mathilde Panot face à Simone Veil? Alors, je la découvre, je ne l'avais pas vue pour tout vous dire, mais honnêtement...
Pour tout vous dire aussi, c'est Jean-Sébastien qui m'a alerté il y a 5 minutes pour me dire que c'était
la mégalomanie, l'estime de soi, la confiance incroyable qu'il faut avoir en soi pour oser produire un document de cette nature-là, sincèrement,
ce qu'a vécu Madame Veil.
C'est surtout la preuve d'un égo.
On peut reconnaître à Mathilde Panot, elle a, avec d'autres, porté effectivement, été à l'origine de cette initiative, avec la sénatrice écologiste aussi, Mélanie Vogel. En revanche, le texte...
Est-ce que pour reprendre Jean-Luc Mélenchon, c'est minable de la part de Gabriel Attal de ne pas avoir mentionné Mathilde Panot, par exemple, ou Madame Vogel également?
Ce que je vous disais tout à l'heure, le texte de Madame Panot, justement... aurait en quelque sorte emporté beaucoup plus de conséquences irréversibles que le texte qui a été adopté là. Donc en réalité, ça n'est pas une victoire pour eux, puisque comme je vous le disais, il suffirait de voter une loi simple qui remettrait en cause non pas le droit à l'avortement, mais les conditions dans lesquelles cette liberté s'exerce. Mais quand même, souvenons-nous de ce qu'a vécu Madame Veil. Souvenons-nous des insultes, des menaces de mort, des intimidations en tout genre qu'avait vécu Madame Veil.
Ce rendez-vous avec l'histoire mis en scène est incroyable.
Et aussi Valérie Giscard d'Estaing, parce que moi ça me fait toujours rire les gens. Évidemment que Simone Veil et Robert Badinter étaient des personnalités admirables, mais enfin si François Mitterrand n'avait pas su se faire élire, il n'y aurait pas eu la loi d'abolition de la peine de mort. Et si Valérie Giscard d'Estaing n'avait pas été porteur de cette vision-là de la société, il n'y aurait pas non plus eu la loi sur l'avortement.
Juste un point. On me disait que l'humilité était la petite coquetterie des grands ambitieux. C'est quelque chose dont manque Madame Panot, apparemment.
Ce sont quand même les mêmes aujourd'hui qui défilent dans les rues, parfois de Paris, avec les islamistes, qui sont les premiers ennemis.
Est-ce qu'il y a un lien à faire?
Ah oui, il y a un lien. Droit à l'avortement. Et moi, je pense que le lien doit être fait, parce qu'aujourd'hui, la remise en cause de la dignité de la personne humaine, de l'égalité homme-femme, de la liberté de la femme, c'est quand même l'islamisme, principalement en France. Et qui sont les principaux défendeurs aujourd'hui de l'islamisme radical en France? C'est LFI. Parce que qui obtient ses voix et qui se fait élire à l'Assemblée nationale grâce aux islamistes? C'est LFI.
Donc, il ne faut pas douter de grand-chose pour se mettre sur une affiche face à face à hauteur de Simone Veil. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Tiens, Mathilde Panot, qui est revenue comme tous les chefs de groupe aujourd'hui, comme tous les chefs de groupe parlementaires, qui est monté à la tribune pour faire un discours. Et évidemment, pour Mathilde Panot, c'est l'extrême droite en France qui menace l'interruption volontaire de grossesse.
Notre vote aujourd'hui a le sens d'une reconnaissance, celle de l'avortement comme droit fondamental humain. Car il pèse toujours sur les droits des femmes la menace d'une régression. Car le droit à l'avortement figure toujours en premier sur la liste des conquêtes à abattre de la part de l'extrême droite. Comme en Argentine, où le nouveau président Javier Milei a déjà annoncé avoir pour priorité d'abroger l'avortement. Comme en Pologne, où 6 femmes sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. Comme aux États-Unis, où depuis juin 2022, 65 000 femmes n'ont eu d'autre choix que de poursuivre une grossesse issue d'un viol.
C'est vrai qu'il y a un petit détail qui nous a échappé, en tout cas qui a échappé à certains, c'est qu'à aucun moment Mathilde Panot ou Jean-Sébastien n'utilisent le mot « femme ». dans son discours.
Elle a parlé d'un droit humain, et la raison étant que, alors après, ça n'est pas la rédaction qui a été retenue. Là encore, c'est là où on voit que ça n'est pas la victoire politique que revendique la France insoumise, ni même les Verts, puisque l'idée était de dire qu'il fallait aussi ouvrir ce droit à une personne transsexuelle née biologiquement femme, mais qui aurait entamé une transition tout en étant enceinte et souhaitant avorter.
Jean-Christophe, un commentaire, on vous a pas entendu sur cette question.
Je me faisais la réflexion, je disais que c'est quand même un jour historique, notamment pour les femmes, leur combat, c'est pour certaines, c'est le combat d'une vie, notamment Simone Veil. Il faut lire aussi sa biographie, le livre, Une vie. On comprend d'où elle vient, on comprend pourquoi elle a porté ce sujet. Il y a François Giroux aussi à l'époque, enfin, plein de femmes comme qui méritaient, qui étaient dans ce combat-là. Nos grands-mères aussi, nos mères qui se sont battues. Et puis j'allais dire, en fait, la valeur la plus intrinsèque, c'est le libre arbitre. Et donc vous avez le choix maintenant, effectivement. Les femmes souvent sont prises en otage. Et là, aujourd'hui, elles ont le choix et c'est gravé quand même dans le marbre.
Ça fait 50 ans qu'on a le choix, pardon.
Oui, mais c'est gravé dans le marbre. Et on voit bien aujourd'hui que les lois, d'ailleurs, elles évoluent en fonction de la société. Il y a 124 ans, les femmes adultères étaient emprisonnées. En 1900, les policiers arrêtaient les femmes adultères, on les emprisonnait. Donc la loi évolue et c'est bien qu'on l'inscrive quand même j'allais dire qu'on y mette les formes et effectivement qu'on serve d'étendard. C'est un panégyrique pour le monde. Oui, la France, pays des droits de l'homme, et on a le droit aussi de porter ces valeurs-là. Et peut-être que ça va attirer d'autres pays derrière et ça va faire une courroie. Je pense que c'est plus ça qu'il faut retenir plutôt que la loi et discuter.
C'est vraiment d'être une locomotive sur cette question. C'est l'intérêt aussi. Très vite, Maxime.
Et c'est dans la continuité de l'abolition de la peine de mort qui a été inscrite dans la Constitution en 2007. Donc on est dans une continuité d'une constitutionnalisation des droits, ce qui n'est pas mal d'une
certaine manière. C'est l'introduction aussi au droit à mourir dignement. C'est ce qu'on en parlera, je pense,
bien sûr.
C'est
la prochaine étape.
La première étape, on le voit. Et en fait, encore une fois, le libre arbitre, c'est posséder, j'allais dire vraiment, le droit à être maître de son corps.
Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est un autre débat, mais ça n'a strictement rien à voir.
Non, mais ça fait partie de ces grands débats de société qui vont agiter le débat des prochains mois.
Je pense que c'est précisément un piège politique qui a été tendu à la droite. Parce que comme personne ne remet en cause ce droit-là, contrairement pour le coup au droit à mourir, enfin non pas, horreur de cette expression-là, dans la dignité, parce qu'il faudrait surtout qu'on soit capable de vivre dans la dignité. Mais bref, il y a un piège politique qui a été tendu parce qu'on tente de faire passer toute parole conservatrice pour une parole réactionnaire susceptible de remettre en cause les droits fondamentaux. Et je pense que pour partie, droite est tombée dans le piège qui lui était tendu justement, pour le coup, par les insoumis et par la gauche radicale, parce que là, effectivement, c'est la conclusion que tout le monde aura retenue.
Je voudrais juste apporter un dernier mot et peut-être un dernier commentaire avec Karima sur, parce qu'on a beaucoup parlé également de la clause de conscience des médecins. Ceux qui estiment que cette clause de conscience de médecins qui refusent d'effectuer des avortements sera mise en cause par la constitutionnalisation, ce n'est pas le cas, a assuré Éric Dupond-Moretti ces derniers jours. Il a rappelé que cette liberté de conscience était déjà constitutionnelle, qu'elle ne sera pas rendue caduque. Et ça, c'est une chose importante à relever. Les médecins seront-ils obligés de pratiquer l'avortement lorsqu'il leur sera demandé? En revanche, la réponse est non aussi sur cette question. Est-ce qu'il faudrait contraindre les médecins à accepter tout le temps de pratiquer l'avortement lorsqu'il leur est demandé? Ça, c'est une autre question qui n'est pas tranchée. Karima, un dernier mot?
Juridiquement et moralement, elle est tranchée. Si.
Par la clause de conscience.
Oui, mais est-ce qu'il faudrait justement, ceux qui refuseraient, est-ce qu'il faudrait les obliger ou...
Non, ça existe.
Non, c'est ça.
Qui a valeur constitutionnelle.
C'est ça.
Je pense que...
On peut revenir sur toutes les lois, même quand elles sont constitutionnalisées. Vous venez d'en faire la démonstration, Jean-Sébastien.
Exactement.
Je pense que le droit des femmes, la liberté de choisir pour les femmes, elle est fondamentale. Elle est maintenant inscrite dans la Constitution. Mais moi, je respecte quand même la liberté de conscience. Je ne pense pas que c'est incompatible. On a parlé de l'effectivité. C'est une chose, oui, de rendre accessible.
Moi, je trouve ça étrange d'être médecin et de refuser de pratiquer un IVG.
L'avortement, c'est quand même quelque chose d'un peu... Médicalement, c'est quand même assez...
Ouais, c'est surtout dur, pour la femme qui avorte, que c'est...
Non, mais pour le médecin, enfin...
Oui, mais quand vous êtes médecin, vous êtes face à des réalités parfois très noires et très troublantes.
C'est pas du tout...
La liberté de conscience, c'est un principe absolument fondamental dans une démocratie, parce que c'est aussi...
Oui, mais sur un droit constitutionnel, de ne pas appliquer un droit constitutionnel, ça pose quand même aussi une question, pardon de la soulever. J'entends bien que vous avez 100 fois raison, Jean-Sébastien. Mais c'est normal que ça pose la question, quand même.
Un exemple précis, parce que le propre d'un principe, justement, c'est qu'il s'applique à toutes les situations différentes. Donc, dans les années 30, si Hitler décide de d'euthanasier des personnes handicapées ou bref pour X ou X raisons, ouais. Qu'est-ce qui permet à des médecins potentiellement de refuser justement de s'engager là-dedans? C'est la liberté de conscience.
C'est drôle de comparaison.
Mais je ne compare pas l'un et l'autre. Je vous dis justement qu'il ne faut pas raisonner sur un exemple qui paraît juste ou qui vous paraît juste pour en tirer une conclusion de l'ordre du principe. Parce
Il y a quelque chose qui paraît quand même assez évident, c'est que si on refuse de pratiquer des avortements, qu'on veut être médecin, on n'est pas gynécologue, par exemple. On fait autre chose. Ça semble quand même assez évident.
Par exemple. Bon, voilà en tout cas pour ce jour historique. Qu'est-ce que l'on pouvait dire de l'entrée dans la Constitution officialisée, scellée le 8 mars, dans 4 jours, pour la Journée internationale du droit des femmes, place Vendôme, au ministère de la Justice. De justice, il en est question. Pierre Palmade, rattrapé par la justice. On va dire un mot de l'information du jour. Le comédien pourrait finalement être entendu dans un procès exigé aujourd'hui par le parquet de Melun. On rappelle que le 10 février 2023, il y a un peu plus d'un an, jour pour jour, le comédien français avait causé un accident de la route près de son domicile en Seine-et-Marne, après avoir pris le volant sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool. 3 personnes avaient été grièvement blessées dans la collision, dont une femme enceinte qui a perdu son enfant elle était enceinte de 6 mois. Le parquet exige que l'humoriste de 55 ans comparaisse pour homicide et blessures involontaires. Les explications de Noémie Schulz.
Un peu plus de 3 mois après la clôture de l'enquête, le parquet de Melun demande donc un procès uniquement pour Pierre Palmade et retient le chef de blessure et homicide involontaire. Un point qui fait débat. Pourquoi? Eh bien parce que dans cet accident, les 3 passagers de la voiture percutée par Pierre Palmade ont été blessés, ce qui explique la mise en examen pour blessure involontaire. Mais parmi ces passagers, une femme a perdu son bébé. Elle était enceinte de 6 mois et demi. Ça avait amené le parquet à ouvrir l'enquête également pour homicide involontaire. Or, en droit pénal, le fœtus n'a pas de statut. Et jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours estimé que la mort d'un fœtus ne peut pas être reprochée à qui que ce soit. Selon une expertise, le bébé est mort in utero avant sa naissance. Donc, la défense de Pierre Palmade, qui n'a pas souhaité réagir, a toujours estimé que dans cette affaire, la qualification d'homicide involontaire ne tenait pas et que Pierre Palmade ne pouvait être jugé que pour des blessures involontaires. La peine encourue, évidemment, n'est pas la même. Alors, à ce stade, il s'agit des réquisitions du parquet de Melun. Au final, c'est la juge d'instruction qui aura le dernier mot et qui décidera des motifs du renvoi du comédien devant le tribunal correctionnel. On peut imaginer un procès avant l'été ou à la rentrée.
Et si l'homicide involontaire n'était finalement pas reconnu pour un éventuel procès, ça signifierait donc, Jean-Christophe Couvy, que ce fœtus âgé de 6 mois est donc viable au moment de l'accident, avant l'accident, ne serait pas reconnu comme un être vivant.
Bah en fait, ça va être l'enjeu du procès. Et ça va être un débat de juristes, un débat encore une fois aussi de spécialistes qui vont devoir qualifier effectivement si le bébé était viable ou pas le jour de l'accident. Et donc ça va tout rechanger. Effectivement, après, le juge d'instruction peut requalifier en fonction des débats, etc., les faits. Quoi.
Finalement, il y a 2 questions en une autour de cette qualification voulue aujourd'hui par le parquet. Il y a le côté homicide, donc on comprendra bien qu'il faudra trancher sur le côté viable et le fait que ce fœtus de 6 mois était vivant et reconnu comme tel par la justice. Et puis il y a le deuxième adjectif, l'adjectif plutôt qui suit, c'est involontaire, puisque là, en revanche, si ce caractère involontaire continue d'être retenu, ça sonnera comme une défaite pour les défenseurs de la création d'un délit d'homicide routier qui, à l'instar de M. Alénaud, qui a perdu son fils dans les circonstances que l'on connaît, réclame le caractère volontaire et des peines plus fortes pour les gens qui prennent le volant, notamment en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, qui sont par définition des armes au moment où ils prennent le volant.
On a un principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Hein. Donc, une nouvelle loi qui intervient ne peut pas être appliquée à des faits antérieurs. Heureusement.
Exactement, en plus, oui.
Heureusement, parce que sinon, on ne serait plus du tout une société libérale ni une démocratie. Mais effectivement, il va y avoir un gros débat juridique pour savoir si ce fœtus était viable ou pas. Alors à la fois devant le juge de l'instruction, dans le cadre de l'instruction, mais le tribunal correctionnel est aussi libre de la qualification qu'il fera des faits. Donc ce débat va être ouvert, va être important.
La main désormais est au juge d'instruction, on est d'accord?
Bah là, pour l'heure, il me semble qu'on est toujours dans le cadre de l'instruction. Hein. On n'a pas eu de renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc le juge d'instruction, effectivement, va décider d'un renvoi ou pas de M. Palmade devant le tribunal correctionnel. Et ensuite, le tribunal correctionnel va être saisi de faits, va être saisi d'une prévention et en fonction va apprécier cette prévention et décider de la qualification pénale qu'il va lui donner. Et donc le débat peut revenir et on sent très bien que le parquet va vouloir requérir sur l'homicide involontaire en disant qu'effectivement ce fœtus était viable, de ce que je comprends de votre reportage.
Jean-Sébastien, aujourd'hui également, donc on le disait il y a un instant, lorsqu'un chauffard tue, l'affaire est systématiquement qualifiée d'homicide involontaire. Vous comprenez que ça puisse choquer les familles et que d'ailleurs la loi soit susceptible d'évoluer, hein, puisque je crois que la commission de l'Assemblée nationale a déjà évoqué un délit d'homicide routier. Et que
ça a été voté.
Et que le Sénat doit s'en emparer.
À l'Assemblée nationale, il est évident que ça va maintenant aller au Sénat. Les sénateurs devront se prononcer. A priori, c'est une loi qui sera votée, qui sera adoptée. Il n'y a pas de sujet. Et c'est important pour les familles. C'est une loi qui est d'abord et avant tout symbolique. Parce que ce qui choquait les familles, c'est ce terme d'involontaire. C'est-à-dire que quand on prend le volant en ayant consommé de la drogue, de l'alcool, les familles étaient choquées par ce terme involontaire. Donc la création de l'homicide routier, c'est quelque chose de symbolique qui ne change rien.
Ça mettrait fin à une forme d'indulgence également.
Peut-être. Mais qui ne change rien au quantum de la peine, voilà. Qui restera le même. Enfin, la peine maximale encourue restera la même. C'est-à-dire, je crois qu'on est à 7 ans de prison quand il y a quand on a consommé de l'alcool, par exemple, et ça peut aller jusqu'à 10 ans si on a consommé et alcool et stupéfiant.
Jean-Sébastien, un dernier commentaire. Je crois qu'Amaury voulait apporter une réponse
sur la question, mais je laisserai à Amaury l'aspect juridique des choses. Mais sur la question que vous évoquiez, à savoir pour les victimes, oui, bien sûr, parce que c'est redoutable de vivre un deuil qui n'est reconnu par personne, puisque de facto, quand un fœtus est tué pendant une grossesse dans un accident de la route, ou même pour des coups et blessures, par exemple, on vous répond que non. C'est comme si cet enfant-là n'avait jamais existé, alors que, évidemment, pour les parents, il avait existé. Donc,
et surtout,
oui,
à 6 mois, il est parfaitement viable et peut même être reconnu par l'État civil.
Il y a une contradiction juridique qu'il faut... Oui, il y a une contradiction juridique parce que, de facto, la liberté d'avortement s'oppose à cette logique-là.
Enfin, on ne peut pas le nier. Et puis, ce qui est terrible...
Non, pas à 6 mois, je vous disais sur le principe du...
Ce qui est terrible, je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de...
Dernier mot.
C'est qu'il fallait attendre de savoir si, quand on allait sortir l'enfant du ventre de sa mère, s'il allait être vivant ou pas. Et c'était, s'il était vivant, c'était d'office reconnu comme un homicide involontaire. Là, finalement, elle est accouchée, cet enfant était mort, mais ils arrivent quand même. Mais ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il faut quand même attendre que l'enfant sorte du ventre de sa mère, voir s'il est vivant ou pas. Enfin, et oui, et juste pour revenir là-dessus, effectivement...
Il n'y a plus d'homicide, je ne comprends pas.
S'il est vivant, c'est un homicide, justement.
Oui, involontaire.
Non, s'il est...
Ah oui, pardon. Mais il peut mourir après. S'il est mort après. Voilà, s'il est mort après que sa mère est accouchée.
Parce que c'était la question qui se posait dans le cas de Palmade.
Bon, et on verra. Évidemment, les suites qui seront données, les qualifications qui seront choisies en vue d'un éventuel procès qui a été donc exigé. C'est l'information du jour exigée aujourd'hui par le parquet de Melun qui suit cette affaire. Il est quasiment 23h. Dans un instant, on parlera d'une autre affaire et d'un témoignage absolument poignant et insupportable à la fois. C'est le témoignage de cet homme sexagénaire agressé ce week-end alors qu'il sortait d'une synagogue coiffé d'une kippa et agressé très brutalement parce que juif. On l'entendra, il a témoigné à notre micro aujourd'hui. Maureen Vidal pour l'essentiel, on se retrouve tout de suite.
Volontaire de grossesse officiellement inscrite dans la Constitution. Le Parlement a voté ce lundi avec 780 voix pour et 52 contre. Une première mondiale. À cette occasion, explosion de joie devant la Tour Eiffel scintillante ce soir avec le slogan « Mon corps, mon choix » projeté sur la Dame de Fer. Un mort et plusieurs blessés après l'effondrement d'un pont de la troisième ligne du métro à Toulouse. Le parquet a ouvert une enquête. Une vingtaine de mètres de pont s'est effondré. Les opérations de recherche sont en cours pour confirmer le bilan, a déclaré le réseau des transports en commun de Toulouse, Tisséo. Enfin, un projet d'attentat djihadiste déjoué ce week-end à Bruxelles. Une salle de concert était dans le viseur d'une attaque dans les prochaines semaines. 4 hommes, dont 3 mineurs, ont été interpellés par la police belge. Le suspect majeur au cœur d'une deuxième enquête antiterroriste menée sous l'autorité du parquet fédéral a été inculpé par un juge de Bruxelles.
Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Indignation, grande émotion. Donc après cette agression d'un sexagénaire dans le 20e arrondissement de Paris, c'est l'est de la capitale. Ça s'est passé ce week-end à la sortie du synagogue. L'homme qui portait une kippa a été traité de sale juif, puis roué de coups. Écoutez une première partie de son témoignage et puis on va en parler notamment avec vous, Amaury, pour avoir plus de détails sur ce qui est arrivé à Marco. C'est son prénom.
Je suis rendu à la synagogue ce vendredi pour l'entrée du Shabbat. Et j'étais assis au rebord de la synagogue. Une seule personne est passée, m'a regardé. Je l'ai regardé. Je me suis dit, elle est bizarre. dans ma tête. Cette personne est repassée 3 minutes après, elle est venue vers moi, elle m'a dit « C'est toi les Juifs qui tuent les Arabes à Gaza ?» Je lui ai dit « Moi, je tue personne. J'ai tué personne et je tue personne. » Et je me suis levé pour lui tenir tête, et j'ai eu le temps que je me lève, il m'a donné des coups sur le visage et partout, quoi. Et j'ai pas eu le temps de réagir, je suis tombé, je me suis évanoui et des gens m'ont aidé à récupérer. J'étais en sang, quoi. J'ai envie de me venger. J'ai envie de me venger vraiment, vraiment. Des idées mauvaises dans ma tête qui passent. Des mauvaises idées. Des idées qui sont pas bonnes, quoi. Qui sont pas bonnes à avoir. Mais voilà, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal, après une agression comme j'ai subi, c'est normal d'avoir le sentiment de haine, de mépris, quoi. C'est un dégoût, quoi. C'est lâche. C'est lâche. J'ai 62 ans. À 23 ans, j'aurais jamais pensé frapper un homme de 40 ans plus que moi.
Bonsoir Gilles Taïeb, merci beaucoup d'être avec nous par vidéo pour quelques minutes. Vous êtes, je le rappelle bien sûr, vice-président du CRIF. Vous l'avez entendu comme nous, ce témoignage, cet homme, il est poignant et c'est une réalité insupportable en fait qu'on se prend encore une fois en plein visage.
Tout à fait Julien, je regarde les images, je regarde le premier reportage qui a été fait, les premières interviews de Marco, j'écoute cette deuxième, je les regarde sans cesse et je me dis, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar de penser qu'aujourd'hui, en plein Paris, en France, au XXIe siècle, il y ait des gens qui puissent agresser et frapper un juif simplement parce qu'il est juif. Et je n'arrive pas à m'habituer à cette idée. Même si c'est une agression de plus, une agression à chaque fois qui s'ajoute à la longue liste des actes antisémites qui ne fait qu'augmenter. Cette haine qui grandit dans notre société est une haine aujourd'hui qu'il faut non seulement condamner, non seulement montrer en image comme vous le faites, mais je pense que ce terroriste, on l'appelle ce terroriste là, qui a attaqué Marco dans la rue, il court encore. La justice ne l'a pas, la police ne l'a pas encore trouvé. J'espère qu'ils le trouveront. J'espère surtout que les condamnations seront fortes et surtout qu'on le saura et que la justice ne traînera pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que sur les sites et dans son petit milieu, cet individu se considère comme un héros parce qu'il a attaqué Marco au nom des Palestiniens de Gaza. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il va falloir absolument combattre. On n'est pas les seuls concernés. Les Juifs sont en première ligne et effectivement, il y en a marre. Effectivement, je comprends la colère de Marco, je comprends l'évolution de son discours. Il était au début, il parlait d'humiliation, aujourd'hui il a envie de se venger. Eh bien, ce sentiment est quelque chose qui est aujourd'hui un véritable problème et un véritable ressentiment de la communauté juive en tout cas, de se dire qu'elle va rester courageuse, qu'elle ne va pas céder à la panique. Mais en tout cas, aujourd'hui, chacun doit comprendre qu'il faut... On ne peut pas mettre un policier derrière chaque juif. Non. Et qu'il y a des discours de haine qui montent et qui se répètent. Des discours de haine qui montrent le juif en lui collant une étiquette et en le transformant en criminel.
Gilles Taïeb.
On l'a écouté et tout.
Allez-y, finissez votre phrase, mais je vous laisse finir votre phrase, pardon.
Oui, je voulais simplement dire qu'on écoute les discours de LFI et leur condamnation bidon. On écoute aussi des autres discours. Je rappelle quand même la prise de parole de Védrine. Védrine a osé dire qu'Israël empoisonnait les puits. Mais c'est une des accusations des plus horribles. Une accusation qu'on trouvait dans le protocole des sages de Sion. Donc toute cette horreur est en train de ressortir. Et aujourd'hui, certains se sentent des chevaliers en voulant attaquer des juifs alors que ce ne sont que des criminels, des assassins, des ordures et des gens qu'il faut emprisonner, punir de manière très très forte. Alors, parce que les juifs sont en danger certes, mais la France est en danger.
Gilles Taïeb, si vous le permettez, je reviens vers vous dans un instant. Il y a beaucoup de choses que vous soulevez, et notamment une forme d'encouragement politique. Et Jean-Luc Mélenchon est particulièrement visé, et beaucoup de députés de la France insoumise ces derniers mois et encore ces dernières heures. On le verra avec Yoann dans un instant. Vous vous posiez la question, bien sûr, de la personne qui a commis cet acte ignoble. Je voudrais justement, si vous voulez bien rester avec nous quelques instants, qu'on entende Amaury Bucaud pour les questions de police-justice. Amaury, est-ce qu'on en sait plus? Et en effet, la première question qu'on se pose tous, est-ce que l'agresseur de Marco a été arrêté à l'heure où on se parle ou pas?
Alors, il n'est pas arrêté, mais ce qu'on sait, c'est que la police a présenté à Marco différentes photos de personnes qui auraient pu être son agresseur, parce que cette personne qui l'a agressé apparemment était régulièrement dans le quartier, était connue de certaines personnes, et il aurait reconnu sur les photos, à plus de 80%, la photo de son agresseur. Donc, il serait identifié. Maintenant, il faut que la police l'interpelle, ce qui n'est pas forcément simple. Je ne sais pas quelle est sa situation. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que la description qu'en fait la victime, il est probablement avec des troubles psychiatriques. Et c'est bien sûr ce qui va après être très important pour la suite juridique de cette affaire. Là, à ce stade, Marco, son calendrier, si vous voulez, son agenda des prochains jours, ben, c'est des rendez-vous en permanence à l'hôpital, notamment aux UMJ, pour faire évaluer ses blessures. Pour avoir des opérations aussi médicales, évidemment. Et puis, j'ai pu m'entretenir ce soir avec son avocate qui me disait qu'elle se préparait déjà maintenant pour le combat en civil, pour avoir obtenu des réparations, puisque quand même, là, depuis son agression, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne dort plus. Il est effectivement traumatisé par ce qui lui arrive. Et puis, il le dit lui-même, hein, on va écouter d'autres témoignages, Julien, si vous voulez bien. Il ne veut plus porter une kippa dans la rue, il a très peur.
Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous dit. On écoute ce deuxième extrait. Merci à Amaury.
Est-ce que vous avez peur, vous, aujourd'hui, en vous baladant dans la rue ?
Non, mais je suis sorti, j'ai eu des angoisses. J'étais pas bien avec les gens. J'avais un sentiment de colère contre tout le monde. J'en voulais aux gens. Les gens m'ont regardé bizarrement, ils m'ont regardé, c'est normal qu'ils m'ont regardé. Vu la gueule que j'ai, c'est normal qu'ils me regardent. Et moi, j'avais envie de crier, quoi. J'ai envie de leur dire, c'est pas bon ce que vous m'avez fait, c'est pas bien.
Retourner à la synagogue avec une kippa, vous allez le refaire?
Non, je ne veux pas le faire, j'ai peur. J'ai pas envie de... Je suis fragile, j'ai eu un cancer. Je suis en rémission. Je suis très fragile. Je suis en train de mourir.
Ça fait froid dans le dos hein, de l'entendre, et on a vraiment le cœur gros en écoutant ce monsieur, Gilles Taïeb. Gilles Taïeb, je vais vous faire une petite confidence. J'ai grandi dans ce quartier, j'ai passé 25 ans à 50 mètres de cette synagogue, et je vous le dis, j'ai grandi au milieu de musulmans et de juifs, une grosse communauté, notamment Lubavitch, comme on dit, qui est très insérée dans le quartier, et je n'ai jamais entendu parler du moindre problème. Bien au contraire, il y avait une vraie communion entre ces différentes communautés et une dégradation qui est forte, qui est insupportable. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est seulement dû, selon vous, aux récents événements du 7 octobre et au discours politique de certains, ou c'est plus profond que ça?
Alors Julien, moi aussi j'ai grandi dans ces quartiers, donc je connais bien ces quartiers. J'ai grandi avec des musulmans, avec des juifs, avec des chrétiens. J'étais dans les écoles de la République et on était... sans problème, je n'avais jamais entendu ce genre de choses. Comment on peut expliquer ? On peut l'expliquer. Parce qu'il y a aujourd'hui en France le développement d'un islamisme intégriste qui a pénétré notre société et qui manipule les esprits et qui fait en sorte que se sont tous lancés dans une espèce de djihad dont la première victime est le juif. Mais comme le disait un certain nombre de terroristes, après vendredi, il y a samedi et dimanche.
Un commentaire en plateau, Jean-Christophe Prouvy. On a entendu les explications d'Amaury et surtout, oui, cette dégradation en fait des conditions de vie pour les Juifs en France aujourd'hui.
Oui, ben on voit que cette année, il y a trois fois plus d'actes antisémites que l'année dernière. Donc on voit bien que le 7 octobre, effectivement, 2023, c'était un déclenchement, un détonateur quelque part. Et dans la société française, aujourd'hui, on voit que c'est ce schisme, en fait. On a des camps, les uns contre les autres. Effectivement, on a des partis politiques qui invectivent, qui attisent. Et nous, on est gardiens de la paix. On essaie justement de garder cet équilibre dans la société entre les différentes communautés. Alors qu'on devrait n'avoir qu'une seule communauté, quelque part, c'est la communauté française. Et on ne devrait même pas parler, effectivement, des religions des uns des autres. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. On va voir tout à l'heure, peut-être un peu plus tard.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a regretté encore une fois l'importation du conflit entre Israël et Gaza. Mais c'est pas la seule explication. Chacun l'imagine.
Non, mais c'est facile.
L'explosion des actes antisémites a démarré le 7 octobre. Et au 7 octobre, vous le savez évidemment aussi bien que moi, il n'y avait pas un missile, pas une roquette israélienne qui a été tirée sur Gaza. C'est à partir du 8 octobre qu'ils ont répondu. Fait. Donc tout ça n'est pas généré, c'est ça que je veux dire, par la réponse. Quel que soit ce que l'on pense de la réponse israélienne, ce n'est pas ça qui a généré ce à quoi on a fait.
De toute façon, les Français juifs ne sont pas responsables de quoi qu'on
pense de la réponse israélienne. Si je peux me permettre, cher Jean-Sébastien, j'arrive à vous ensuite.
Ah, c'est Jean-Sébastien.
Pardon.
Ce qu'on constate, effectivement, c'est que, oui, alors l'islam politique gagne du terrain en France, ça c'est... On le voit, on peut pas faire autre chose que de le voir. En même temps, on ne sait pas si c'est une personne non plus qui avait cette optique-là. Il peut y avoir effectivement une personne dérangée qui regarde tous les jours, notamment avec les réseaux sociaux, encore une fois, avec les TikTok, etc., toutes les images qui arrivent. Et c'est des gens qui s'emparent d'un sujet et qui, effectivement, veulent régler des comptes. Alors après, oui, il y a de l'antisémitisme, c'est une réalité. Et nous, encore une fois, on est là pour combattre cet antisémitisme. On arrêtera cette personne et elle sera traduite devant la justice.
Juste encore un extrait de cette longue interview que Fabrice Elsner a réalisée et Johan, vous reprenez.
Vous vous sentez triste aujourd'hui ?
Oui.
Pour la France ?
Pour la France, oui. Beaucoup. Je suis triste que les Français ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se passer sur leur pays. Et que ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi victimes d'agressions. Les Français de souche se font insulter de pisse de pute, de pédé, de toutes sortes de noms. Et ils ne portent pas plainte, ils sont écœurés, ils en ont marre, ils baissent la tête, ils ont peur. Parce que le Français, ce n'est pas méchant, il est gentil, le Français.
Yohann Uzaï.
Oui, non, simplement.
Très digne, ce monsieur.
Évidemment, très très digne. Beaucoup de force et beaucoup de courage, parce que ce qu'il a vécu est évidemment traumatisant, mais Jean-Christophe Couvi disait c'est peut-être quelqu'un de dérangé. Écoutez, les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre. Donc arrêtons d'aller chercher des personnes dérangées. Ce ne sont pas des personnes dérangées, ce sont...
Des antisémites latents.
Ce sont
mais on
ne
va pas aller chercher. Il y en a qui sont aussi dérangés.
Mais à 99,9%, ce sont des antisémites.
L'antisémite, on peut être dérangé antisémite.
Mais l'antisémite dans ce pays...
Être antisémite, c'est être dérangé.
Antisémite, c'est être dérangé, effectivement. Mais on est avant tout antisémite. Et dans ce pays, l'antisémitisme, il est latent. Alors, il a sauté aux yeux de tout le monde le 7 octobre, mais il gagne du terrain depuis des années et des années, précisément parce que l'islamisme a lui aussi gagné du terrain. Ça, c'est une réalité. L'islamisme qui est présent notamment sur les réseaux sociaux, qui touche particulièrement les jeunes, qui essaie d'embrouiller les cerveaux de toute la jeunesse musulmane en leur faisant croire que le juif est leur ennemi, etc. Donc, il est évident qu'il y a un lien direct et que l'antisémitisme dans ce pays gagne du terrain depuis des années et qu'il se manifeste là aux yeux de tout le monde.
Gilles Taïeb, ce monsieur, il a envie de quitter la France. Je voudrais que vous entendiez ce dernier extrait et que vous réagissiez.
J'ai envie de partir. J'ai envie de quitter la France. Mais en même temps, je ne peux pas. Je ne peux pas la quitter. Ma maison ne me rapporterait pas assez d'argent pour pouvoir partir avec ma fille, ma petite-fille. J'aurais pas les moyens de m'installer en Israël, c'est trop cher. J'ai pas les moyens.
Ce que vous aimeriez aujourd'hui, c'est repartir en Israël ?
Oui. Avec ma fille, ma petite-fille, mais même si je vendais ma maison, j'aurais pas les moyens. C'est très cher. J'ai une petite retraite, ma fille n'a pas l'argent, elle ne pourrait pas. C'est pas possible, je suis bloqué, quoi. Je suis coincé.
Mais vous avez envie de quitter la France ?
Ah oui. Ah oui. Je me sens pas... Je me reconnais pas à travers la population française. Je me reconnais pas à travers ces gens. Ni physiquement, ni intellectuellement. Au niveau du vocabulaire, c'est la pire des choses. Un vocabulaire que je comprends pas. Je sais pas ce que c'est cette langue.
Vous vous rendez compte, Gilles Taïeb, que ce monsieur préfère Alors, quand bien même l'attachement des Juifs à Israël est une chose, mais si j'enlève cet attachement, cet homme préfère aller vivre dans un pays en guerre que de vivre dans le pays où il évolue, où il a grandi, j'en suis sûr, où il est né.
Il a effectivement grandi dans cet arrondissement.
Il a grandi dans le 20e arrondissement et il préfère aller dans un pays en guerre. Vous rendez compte ?
Je m'en rends compte et je suis tellement peiné. Parce que faire son alias, c'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Mais partir en Israël pour fuir l'antisémitisme, c'est une tâche sur la France. Et dans cette France, comme vous l'avez dit, Julien, et comme le disent tous les intervenants, une France dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a partagé, on est des citoyens français, bon sang. Mmh. Et si on choisit de partir, ce sera pour d'autres raisons. Mais si c'est parce que l'antisémitisme devient ce qu'il est en train de devenir et que des Juifs n'ont plus leur place dans la société française, qu'ils sont obligés de retirer leur kippa, qu'ils sont obligés de retirer leur mezouza, qu'ils vont se cacher, non, c'est plus une vie. C'est le problème devant lequel on est. Et comme l'a dit tout à l'heure Yoshua, il y a l'islamisme qui s'est développé depuis de nombreuses années. Et puis on parle, c'est vrai, de problèmes mentaux. Mais ça ne doit pas être une excuse aujourd'hui. Ça ne doit pas être une excuse d'être les problèmes mentaux. Trop de gens se cachent derrière ça, alors que ce sont des criminels, que ce sont des gens qui sont les véhicules ou bien les serviteurs d'une idéologie, peut-être qui les dépasse. Mais en tout cas, il y a une intelligence derrière qui les manipule et qui les fait devenir ce qu'ils sont aujourd'hui.
Quel terrible révélateur que le pogrom du 7 octobre, Gilles. On attendait une empathie mondiale, générale, et voilà ce qui est obtenu aujourd'hui.
C'est lamentable. Le 7 octobre, on a eu une journée d'empathie générale, et encore, dès le 7 octobre au soir, il y avait déjà des actes antisémites, il y avait déjà des appels à manifester, alors que Israël, comme vous l'avez dit, Julien, n'avait pas encore attaqué. C'est un révélateur, c'est quelque chose qui nous a explosé au visage, les uns et les autres. C'est quelque chose peut-être qu'on refusait d'imaginer, qu'un pogrom soit encore possible. En 2023, et que le plus jamais ça d'après la Shoah, c'était plus valable. Il y a eu, et il risque d'y avoir encore. C'est pour ça qu'il faut rester fort et qu'il ne faut pas baisser les bras.
Gilles Taïeb, est-ce que vous avez encore 5-6 minutes à nous accorder, si vous le voulez bien, parce que je voudrais qu'on aille dans le versant politique, parce que ces dernières heures, parallèlement à cette affaire de vendredi, l'agression de ce monsieur, des réactions politiques ont visé, et je me tourne vers vous, Yohann Uzaï, Jean-Luc Mélenchon, avec cette question qui revient inlassablement, encore une fois, depuis le 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon est-il antisémite? La question est posée depuis ce funeste jour, et les menaces terroristes et les massacres terroristes en Israël, une question et des réponses, je le disais, ces dernières heures encore, de plus en plus claires de la part de ses adversaires politiques.
Oui, vous parlez de massacre terroriste, Julien. Voilà par exemple un mot que Jean-Luc Mélenchon, on le sait, a toujours refusé de prononcer et qu'il refuse toujours de prononcer encore aujourd'hui. Certains de ses camarades insoumis ont même qualifié le Hamas de groupe de résistance sans susciter évidemment l'émoi de leur leader. Alors on ne va pas rappeler l'ensemble des propos odieux tenus par Jean-Luc Mélenchon depuis le 7 octobre. La liste est tellement longue qu'il nous faudrait hélas trop de temps. Le garde des Sceaux a retenu une provocation parmi tant d'autres. 3 semaines après les attaques terroristes du 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon avait moqué le déplacement de Yael Braun-Pivet en Israël. La présidente de l'Assemblée nationale avait été accusée d'être allée camper à Tel Aviv pour encourager les massacres. Pour Éric Dupond-Moretti, il semble évident que Jean-Luc Mélenchon est antisémite.
Mélenchon et ses amis de LFI, on peut citer Panot, Caron, Bompard, Léaumont, Porte et d'autres, Guiraud, ils arment les tueurs antisémites ?
Pardon,
ils arment les tueurs antisémites ?
En tous les cas, ils les nourrissent, oui.
Ils les nourrissent ? Ouais. Donc ils peuvent favoriser le passage à l'acte ?
C'est ce que je vous ai dit.
Notamment qu'Éméric Caron avait à travers...
Non mais c'est ce que je vous ai dit. Il y a les mots, ouais. Les mots de haine, et il y a les actes.
Mélenchon, c'est un antisémite, Éric Dupond-Moretti ?
En tous les cas, il s'exprime comme un antisémite.
Il s'exprime comme un antisémite.
Bah, écoutez,
donc c'est un antisémite.
Il s'en défend.
Oui, mais vous.
Mais quand il dit de Yael Braun-Pivet qu'elle est partie camper, ouais. Vous voyez, camper.
Camper. Il y a une partie de sa famille qui a été exterminée à Auschwitz.
Bien sûr, le choix des mots pour encourager le massacre, je réponds oui à votre question.
Oui, c'est un antisémite.
Oui.
Hein, mais dites-le.
Bah, je vous le dis.
Éric Dupond-Moretti qui s'exprimait donc hier sur Radio J, les propos du garde des Sceaux approuvés ce matin sur CNews par le député Renaissance Carl Olive.
Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, on le voit mais on ne le voit pas simplement dans ses paroles, on le voit sur les actes. Quand je dis que la France insoumise est un danger pour la société, on s'en rend compte tous les jours, avec des cocottes minutes, je le disais, où parfois nos jeunes, notamment dans les quartiers, sont insufflés de plusieurs mensonges. Et 10 mensonges n'entraînent pas une vérité. Donc, au micro de Frédéric Aziza, M. Moretti, notre garde des Sceaux, a dit ce qu'il avait sur le cœur et partagé par, je crois, une majorité de celles et ceux qui savent précisément comment se conduisent la France insoumise.
Jean-Luc Mélenchon qui souhaite la mise en place de sanctions économiques contre le gouvernement israélien, à l'instar de celles qui frappent la Russie depuis son invasion de l'Ukraine. Il souhaite également que les athlètes israéliens participent comme les Russes sous bannière neutre aux Jeux Olympiques. Pour lui, Israël et la Russie seraient donc deux pays semblables, responsables d'avoir déclenché une guerre. C'est à cause de ce genre de comparaison abjecte dont Jean-Luc Mélenchon est désormais coutumier que l'antisionisme conduit à l'antisémitisme. L'agression dont on vient de parler d'un sexagénaire pris pour cible au cœur de Paris parce que juif, au cri de « c'est toi qui tue les gens à Gaza », en est hélas une nouvelle illustration.
Gilles Taïeb, vous venez d'entendre ces différentes réactions politiques. Je rappelle que 436 actes antisémites avaient été répertoriés en 2022, alors qu'ils ont été 1676 en 2023. Il y a les actes. Et puis il y a les paroles. Est-ce que certaines paroles nourrissent l'antisémitisme ? Je sais que la réponse est un petit peu dans la question.
Ça fait longtemps que l'on montre du doigt LFI, Jean-Luc Mélenchon, Obono, toute cette clique qui est devenue les porteurs de l'islamisme anti-israélien et antisémite. Oui, Jean-Luc Mélenchon et les LFI sont des antisémites. Et je l'accuse aujourd'hui.
Alors pourquoi ne pas... Pardon, mais il y a quelque chose, et j'aurais pu évidemment poser cette question au garde des Sceaux, Gilles Taïeb, pourquoi ne porte pas plainte contre Jean-Luc Mélenchon, puisque l'antisémitisme est un délit ?
Mais il y a des... Je crois qu'il y a des associations qui essayent d'avancer sur le problème de dépôt de plainte, mais Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui très malin, et il est encore très malin, parce qu'il est diabolique, ce gars, et il faut être sûr d'avoir tous les éléments pour ne pas lui donner une tribune sur laquelle on ne pourrait pas avoir satisfaction. Donc c'est à l'étude, mais il faut le dire, le répéter, le montrer sans cesse. Et comme je le disais juste avant, je l'accuse aujourd'hui d'être derrière chaque hématome, derrière chaque point de suture, derrière chaque fracture qu'a subi Marco, parce qu'à force de parler comme il parle, il a armé et il a donné du poids à un islamisme antisémite dont il est aujourd'hui le fer de lance et le défenseur.
Merci Gilles. Je reviens vous voir dans une minute pour peut-être un mot de conclusion. Je voudrais juste qu'on voit aussi ensemble et un commentaire, pourquoi pas avec vous Maxime aussi. Thomas Porte, pardon, parce que c'est vrai que Gilles Taïeb n'a pas mentionné le député LFI Thomas Porte. Il aurait pu le faire parce que ce tweet, moi, je m'ai interpellé. Quelle honte de s'en prendre à une personne âgée. Alors déjà, C'est un homme d'une soixantaine d'années. C'est surtout parce qu'il est juif, en fait, qu'on s'en est pris à lui. Cette agression antisémite est inqualifiable. Soutien total à cette personne. Merci, monsieur le député, pour ces mots. En revanche, n'en doutez pas, votre place est en France et la République se tient à vos côtés. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit, le député Thomas Porte ? Ce monsieur est français, en fait. On n'attend pas du député Thomas Porte qu'il dise à ce monsieur que sa place est en France. Ce monsieur est français.
Mais on sait à côté de qui
c'est un peu
Porte.
Marginalisé. Enfin, je sais pas si je surinterprète ce tweet.
Je suis d'accord.
Mais moi, j'ai été choqué. En fait, il se rend pas compte de ce qu'il dit ou écrit. Et ils sont toujours sur un fil. Et à travers ce tweet, je trouve que l'on comprend un petit peu comment il pense.
Ouais. Vous trouvez que ce tweet est honnête et sincère ?
Ça, je n'en sais rien.
Je trouve qu'il a quand même une dimension très politique. Tout simplement, et que
ça, je peux pas m'en faire
effectivement
juge.
Énormément de choses, et notamment le fait qu'il y a une partie des Français qui ne sont pas pour eux réellement des Français. Et on se souviendra quand même que quand il y a eu 40 Français qui sont décédés en Israël le 7 octobre, ils ont eu beaucoup de mal à reconnaître que des compatriotes avaient été tués sur un territoire autre que le territoire national. Donc effectivement, faut pas oublier où est la place de LFI. Moi, après, sur l'attaque antisémite qu'on a vue et sur cette personne qui est Marco, j'ai, J'ai pas envie d'avoir de tristesse ou de peine, parce que je pense que ce serait donner du crédit, en fait, à ces islamistes. Moi, j'ai de la colère.
Attendez, je vous le dis sincèrement. Maxime, on ne connaît pas, on sait pas qui a agressé ce monsieur. Soyons prudents, s'il vous plaît.
Oui, mais
s'il vous plaît.
Si j'ai bien compris, c'était au nom de Gaza et de la Palestine. C'est bien ce qui a été dit. Bon, d'accord.
Et il me semble. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas musulmans et qui ont de la haine du juif également et qui sont antisionistes aussi.
Il y a des discours pro-islamistes. Ça existe. Qui sont tenus, et c'est effectivement...
J'entends très bien, mais je voudrais qu'on cadre bien les choses.
D'accord, mais c'est effectivement ce qui a été tenu quand même, c'est un propos islamiste qui a été tenu, si j'ai bien compris. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ça fait quand même 30 ans, et le rapport Aubin, par exemple, de 2004, le disait, que la montée de l'islamisme, et donc la montée de la conflictualisation de la société française, elle existe. Et on est choqué, on est étonné qu'en 2024, moi je suis pas étonné ni choqué, malheureusement qu'il y ait des actes antisémites en France, je vous le dis sincèrement, je suis pas étonné. C'est la concrétisation d'un abandon.
Une telle banalisation.
Non mais c'est un abandon du vivre ensemble à la française, c'est un abandon de la défense de nos valeurs, c'est un abandon du combat contre les valeurs obscurantistes que peuvent représenter l'islam radical en France. Ça fait 20 ans que quand vous ouvrez la bouche en disant « attention l'islam radical », vous êtes désigné comme un mec d'extrême droite. Et moi je me souviens très bien, il y a 10-15 ans quand je faisais un peu de politique et que je disais « vous savez l'islam politique dans les banlieues », on me disait « ah, toi t'es un facho ». Et j'avais en face de moi qui ? J'avais en face de moi des candidats de l'UMP, des candidats du PS qui me montraient du doigt parce que je désignais tout simplement une radicalisation dans les banlieues. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui viennent nous dire « Ah, c'est quand même pas bien ce qu'on est en train de vivre, vous imaginez, les actes antisémites. » Mais attendez, mes cocos, quand vous étiez au pouvoir pendant 20 ans, vous avez fait quoi ? Vous avez rien fait, vous avez fermé les yeux parce que vous pensiez avoir les voix des islamistes pour vous faire réélire. Et vous avez laissé progresser l'islamisme dans notre pays. Donc moi, c'est pas de la peine, parce que Marco, il a pas besoin de peine aujourd'hui. Marco, ce qu'il exprime, c'est pas un besoin de tristesse, c'est un besoin de combat. Et ce qu'il veut, c'est qu'on combatte à ses côtés et aux côtés de l'ensemble des Français qui veulent défendre les valeurs de la France et les valeurs de la République et qui veulent combattre l'islam politique. Donc c'est pas de la peine qu'on va lui donner aujourd'hui, c'est un combat réel.
Karima, un mot, on va se rapprocher du journal de Maureen et Gilles Taïeb conclura, mais j'ai en tête, à chaque fois qu'on évoque ces sujets, j'ai en tête les mots de Rachel Kahn sur le plateau de Laurence Ferrari il y a quelques semaines, qui parlait de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, et qui disait « ce ne sont plus nos adversaires politiques, ce sont nos ennemis ».
Mais moi, j'aime pas quand même quand on bascule et on commence à désigner ennemis ou quoi que ce soit, parce que je trouve qu'on accentue peut-être un peu les fractures. Je suis d'accord par ailleurs qu'il y a certains discours, l'ambiguïté d'être toujours un peu sur la ligne, distiller certains messages, ne pas condamner fermement quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, pas être capable de dire ces choses-là, ça c'était pour moi inacceptable. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, hein, toute la question de cette radicalisation des discours haineux de l'islamisme radical. Il y a plusieurs sources aussi à l'antisémitisme et je pense qu'on peut le dire aussi. Hein, la critique, par exemple, s'il y a des gens qui veulent critiquer le gouvernement Netanyahou, sa réplique en ce moment, moi je pense que ça se fait, tout se fait. On peut avoir une idée là-dessus. Si on a une pensée pour les civils palestiniens. Donc oui, bien sûr, on peut le faire. Le problème, c'est quand on bascule sur la haine des Israéliens, la haine des Juifs, et ça, on le voit en ce moment. Et ça, c'est totalement inacceptable. Ensuite, sur les accusations d'antisémitisme, moi, je me dis, ben si on se met à donner, par exemple, des étiquettes comme ça, ben à ce moment-là, peut-être il faut effectivement saisir en justice. Sinon, qu'est-ce qu'on fait?
On envoie
des étiquettes. Non, mais
c'est toujours très insidieux
et pas forcément je trouve quand même que...
Attaquable.
Je trouve quand même que c'est dangereux quand on commence à basculer comme ça. Je peux pas sonder le corps et l'âme, effectivement, des gens, mais quand même, à un moment donné, si on a des indices clairs et qu'on bascule dans l'antisémitisme, il faut le dénoncer et la justice doit faire son travail.
Il est 23h30, Gilles Taïeb, on va devoir marquer une coupure pour notre JT, mais j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'en quelques secondes, on dise un dernier mot ensemble. Je me souviens également de ce récent entretien de Jean-Luc Mélenchon qui disait à propos des Juifs de France « Je me sens abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie, jamais nous n'avons manqué à notre devoir ni aux principes qui le fondent » et il estimait donc ne plus être soutenu par les Juifs qu'il a toujours défendus. Ça vous a provoqué quoi comme sentiment?
Un sentiment dégoût. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est, comme l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il faut être dans le combat. Marco demande le combat. Marco demande des sanctions. Notre République doit se défendre parce qu'on ne peut plus laisser les choses avancer telles qu'elles le font maintenant. Et quand vous parlez, Karima, de fracture, il y a une fracture. On ne va pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là, la fracture. On ne va pas trouver du politiquement correct pour parler d'un fait. Il y a une fracture aujourd'hui, et cette fracture ne peut être réparée que si on élimine le facteur qui fait qu'elle ne cicatrisera jamais. C'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme est là, et il empêchera la fracture et cette cicatrice de se refermer parce qu'il est alimenté en permanence par des êtres odieux et lamentables comme LFI, Jean-Luc Mélenchon et son équipe.
Merci infiniment Gilles Taïeb d'avoir pris le temps de nous répondre en ce lundi soir. Je rappelle que vous êtes bien sûr le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci beaucoup et à très bientôt, je l'espère. On est un tout petit peu en retard, le rappel de l'actualité de 23h32 de Maureen Vidal. Et puis on a deux sujets que j'aimerais vraiment évoquer ensemble. L'expulsion validée par la justice de l'imam Majoubi aujourd'hui. Et puis ce qui se passe dans cette école de Nîmes. Qui est maîtrisé par les dealers, les élèves, les profs ne peuvent quasiment plus s'y rendre. Maureen Vidal.
L'interruption volontaire de grossesse officiellement inscrite dans la Constitution. Le Parlement a voté ce lundi avec 780 voix pour et 52 contre, une première mondiale. À cette occasion, explosion de joie devant la Tour Eiffel scintillante ce soir avec le slogan « Mon corps, mon choix » projeté sur la Dame de Fer. Dans l'affaire Pierre Palmade, le parquet de Melun demande un procès pour homicide et blessures involontaires, un renvoi en procès pour le comédien de 55 ans, mais pas pour les deux hommes qui l'accompagnaient dans le véhicule au moment de l'accident. Les motivations des qualifications pénales retenues dans le réquisitoire définitif n'ont pas été communiquées. La décision finale revient à la juge d'instruction chargée de l'enquête. Enfin, l'affiche des Jeux Olympiques et Paralympiques dévoilée aujourd'hui au musée d'Orsay. Elle sera placardée dans tout Paris dès cette semaine. Dessinée par l'illustrateur Hugo Gattoni, coutumier des fresques, ces affiches lui ont demandé 2000 heures de travail. Une affiche surréaliste et foisonnante en forme de diptyque.
Merci beaucoup, chère Maureen. Tiens, dans cette actualité morose, est-ce qu'on peut revoir cette affiche? Parce que, je vais vous dire, franchement, j'aime pas dire du bien des Jeux Olympiques, mais là, je suis obligé. Franchement, je trouve ça magnifique. Ah oui. Je trouve ça très beau, très bien pensé. C'est superbe. En plus, il y a un petit jeu, vous savez, la bande dessinée où est Charlie, là, où vous devez trouver ce petit personnage avec un pull bariolé. Et ben, là, vous devez trouver des petites mascottes des jeux qui sont cachées un petit peu partout. On voit que Marseille est représentée en haut à gauche, les dunes, les vagues de la Polynésie française, les différents sites olympiques. Moi, je trouve ça magnifique. C'est un 10 sur 10 pour moi, ce dessin, cette affiche.
Il y a une référence à l'exposition universelle.
Bien sûr, avec le Grand Palais aussi. Ouais. Bah, le Grand Palais où il y aura les épreuves d'escrime. Hein.
Les couleurs et le côté pastel et autres, c'est magnifique.
Mais vous êtes très pastel, vous. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, le drapeau français.
Et au moins, le lieu fait qu'Anne Hidalgo aurait un meilleur bilan carbone.
Oh là là. Ah, là, là. Voilà. C'était Jean-Sébastien Ferjou dans un concours de. Comment on dit déjà
Qu'il est hargneux.
Ouais, voilà.
Un vrai chien.
La justice. Allez, on avance. La justice a validé aujourd'hui l'expulsion de Majoubi. Le tribunal administratif de Paris a rendu sa décision aujourd'hui après avoir examiné. Vendredi dernier, une requête déposée par l'imam qui a été expulsé le 22 février vers la Tunisie. Il est accusé, je le rappelle, d'avoir proféré des appels à la haine visant les femmes, les juifs, la France dans ses prêches. Imam de la ville de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Il était donc interpellé et expulsé le 22 février. Célia Barotte nous en dit un petit peu plus.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les propos tenus par l'imam Majoubi sont suffisamment graves pour justifier son expulsion hors de France. Dans un communiqué, le tribunal administratif de Paris a expliqué que ses propos ne s'inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, notamment lorsqu'il s'en est pris à notre drapeau, qu'ils opposent les musulmans avec les non-musulmans, qu'ils incitent à la haine envers les juifs et Israël et qu'ils font l'apologie du djihad et de la charia. De plus, pour le tribunal administratif de Paris, cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ou encore à sa vie privée et familiale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements nécessités par l'état de santé de l'imam ne seraient pas disponibles en Tunisie. Mais l'avocat de l'imam Majoubi, maître Samir Amroun, a annoncé qu'il faisait appel de cette décision auprès du Conseil d'État.
Voilà. On va voir ce que disait le ministre de l'Intérieur à propos de cette nouvelle aujourd'hui, Jean-Christophe Couvi. La justice confirme l'expulsion de l'imam qui incite clairement au séparatisme et insultait notre drapeau. Sur mon instruction, les services du ministère continueront, grâce à nos nouvelles lois, à lutter avec efficacité, j'y arrive, contre tous les prêcheurs de haine. Commentaire, c'est une victoire pour le ministre de l'Intérieur ?
Non, surtout pour la France. Il n'y a pas que le ministre.
C'est lui qui a porté ça.
Oui, d'accord, il l'a porté, mais enfin.
Il y a eu tellement de revers sur le précédent.
Enfin, voilà, bye bye, au revoir l'imam, et puis next, hein, parce que le prochain, il va falloir faire le vide.
Mais le prochain, Jean-Christophe, mais le prochain, c'est peut-être l'imam Majoubi lui-même, puisque cette décision, évidemment, fait l'objet d'un appel au Conseil d'État. Derrière le Conseil d'État, vous savez qu'il y aurait éventuellement un autre recours qui serait la Cour européenne des droits de l'homme. Il crache sur la France, l'imam Majoubi, mais il ferait tout pour la retrouver. Il donnerait tout pour la retrouver.
D'après ce que j'avais compris, ici, c'était Satan. On vivait vraiment sur une terre impie. Et en fait, effectivement, il fait tout pour revenir. Alors qu'on lui a facilité, justement, quelque part, le travail, puisqu'il est allé sur une terre sainte. Voilà. Donc, au moins, on le laisse. Il est bien. Et nous, surtout, c'est que les enfants, non mais dans les quartiers, etc., n'ont pas besoin de personnages comme ça. Voilà.
Ça, c'est sûr.
Maintenant qu'on aère un petit peu, parce qu'on a un problème. Encore une fois, il y a c'est ce qu'on dit tout le temps, mais il y a l'islam de France et l'islam en France. Voilà. Et ici, on est en France, on est un islam de tolérance normalement. Et donc tous les gens qui profèrent ces discours de haine, ces discours où on monte les uns contre les autres, encore une fois, il y a la religion et les religieux. C'est souvent les religieux qui posent des problèmes dans les religions.
Ah bon, oui.
Julien, vous demandez si c'est une victoire de Gérald Darmanin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux semaines, on en parlait et vous disiez finalement le ministre de l'Intérieur est impuissant, il fait ça, mais il ne peut rien faire. Bah, quand même, moi je me dis que c'est quand même...
Attendez la fin des recours.
Non mais bien sûr, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, je trouve déjà, pour le pouvoir politique, de se dire que quand même, le ministre de l'Intérieur veut prendre une sanction, parce que c'est quand même une sanction envers cet homme, que la justice lui donne raison et qu'il n'est pas tout de suite désavoué par le système judiciaire qui viendrait à chaque fois contre le pouvoir politique qui est quand même censé avoir le pouvoir. Et je me dis quand même que c'est un signal envoyé fort à tous les autres imams qui se disent bon bah quand même il y a des expulsions qui fonctionnent et effectivement on va voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais je trouve que c'est très bien que Gérald Darmanin ait très vite répondu à cette polémique en expulsant cet imam et que finalement la justice lui donne raison et que même si le combat judiciaire n'est pas fini pour lui, je pense que la France marque un bon point.
Et ce qui est vrai également, c'est qu'à travers ces différentes séquences, il y a eu l'imam IQCN, il y a celui-ci, et puis il y a évidemment beaucoup d'autres parties immergées de l'iceberg qu'on ne voit pas, et cet islamisme radical grandissant, notamment sur les réseaux sociaux, touchant les jeunes. Et on se pose cette question, pourquoi est-ce que... Et ça revient aussi à l'affaire de Marco, où je parlais de ce quartier de la rue des Orteaux, où les juifs et les musulmans ont toujours cohabité dans une sérénité absolue. Pourquoi il n'y avait pas ce problème avec les premières, les deuxièmes générations? Il y avait un sentiment d'appartenance qui semble s'étioler avec le temps. Alors Jean-Sébastien, si vous voulez, puis Maxime qui voulait prendre la parole également. Deux rapides, s'il vous plaît, deux réponses.
Mais parce qu'il y a eu une instrumentalisation de l'islam depuis 30 ans par l'idéologie, d'une part du wahhabite. Le royaume d'Arabie Saoudite a notamment exporté cette vision-là de l'islam, ce qui n'est plus ou nettement moins le cas maintenant. Le prince héritier saoudien a d'ailleurs, même en Arabie Saoudite, très largement changé la ligne. On ne se rend pas compte de la radicalité du changement qu'il impose, alors avec des méthodes qui ne sont pas fondamentalement démocratiques, mais de la radicalité du changement qu'il impose à l'Arabie Saoudite. Et après, il reste, regardez, on a reçu l'émir du Qatar. Emmanuel Macron considère que le Qatar est un allié inconditionnel, en quelque sorte,
un investisseur inconditionnel.
Le Qatar supporte, soutient et finance l'idéologie des frères musulmans. Et c'est cette idéologie-là aussi qui s'est répandue dans les mosquées françaises et sur les réseaux sociaux. Et nous n'avons que trop longtemps fermé les yeux, dans un premier temps d'ailleurs, en ayant cette espèce d'illusion que pour acheter la paix sociale dans les quartiers, les imams l'achèteraient. On s'est rendu compte à quel point c'était tragique, avec des parents ou des grands-parents qui ne reconnaissent plus leurs enfants, parce que l'islam d'Afrique subsaharienne ou l'islam du Maghreb n'avait rien à voir justement avec cet islam des frères musulmans ou l'islam wahhabite.
Maxime, juste avant que vous répondiez, je vois juste qu'on voit ce petit reportage pour avancer un peu dans le sujet et vous serez le premier à réagir, parce qu'on se dit que oui, le problème en France, c'est que notre modèle, notre récit n'accroche plus auprès d'une partie de la population, mais d'une manière encore plus générale, le modèle occidental n'évoque plus rien à une partie des gens. Et je voudrais qu'on se demande et qu'on fasse un parallèle avec ce qui se passe en Grande-Bretagne. Après les nombreuses manifestations pro-palestiniennes dans le pays depuis le 7 octobre qui ont conduit à des débordements, le Premier ministre a tiré véritablement la sonnette d'alarme ces dernières heures. Il pointe du doigt notamment les extrémistes qu'il qualifie de poison. La démocratie britannique est-elle en danger face à l'islamisme notamment? Regardez ce sujet, je voudrais qu'on en dise un mot parce que forcément ce sont de très proches voisins et ça nous rappelle à notre propre histoire.
Devant le perron de sa résidence, Rishi Sunak met en garde. Face aux extrémistes de tous bords qu'il qualifie de poison, la plus vieille démocratie du monde est en danger.
À de trop nombreuses reprises ces derniers temps, nos rues ont été prises d'assaut par des petits groupes hostiles à nos valeurs et sans respect pour nos traditions démocratiques.
Depuis le 7 octobre, des manifestations pro-palestiniennes sont régulièrement organisées dans les rues de Londres, comme ici, devant le Parlement. Le lendemain, sur la façade de l'horloge la plus célèbre du monde, le slogan jugé antisémite « De la rivière à la mer » a été projeté et autorisé par les autorités. Une diffusion jugée inacceptable par le Premier ministre. Face à ces manifestations devenues aussi plus violentes au fil des semaines, Rishi Sunak affirme que des sanctions seront prises.
Le ministre de l'Intérieur a donné pour instruction de retirer leur droit de séjour aux personnes munies d'un visa qui choisissent de répandre la haine ou aux manifestants qui cherchent à intimider les gens.
Le gouvernement britannique dévoilera dans les prochaines semaines un nouveau cadre pour lutter contre l'extrémisme.
Mais bon,
Maxime Thiebaud, les signes d'un islam politique et conquérant ne cessent de se multiplier outre-Manche. Est-ce que ça nous alerte, nous, Français ?
Oui, ça nous alerte parce qu'on a des exemples même en France. Hein. Mais vous savez, la politique a horreur du vide. Donc à partir du moment où vous défendez plus vos valeurs et que vous êtes plus là pour dire qu'il y a un socle national, qu'il y a des convictions, qu'on doit être même capable de mourir pour ces dernières, bah forcément, à un moment, s'installent d'autres convictions politiques, notamment l'islamisme. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les jeunes aujourd'hui qui se retrouvent derrière l'islamisme radical, ils ont été captés alors qu'il y a un vide sidéral dans notre société à transmettre des valeurs. On a eu beaucoup de mal à transmettre certaines convictions. On a supprimé le service national, l'éducation nationale, il faut quand même dire la réalité, en 30 ans, a quand même particulièrement périclité. Et puis la nation, c'est...
Et on a un modèle complètement différent de celui des Britanniques. Ouais. Et pour autant, ils vivent la même chose que notre société, à un degré supérieur.
Les révolutions culturelles des années 60 qu'a connu l'ensemble de l'Europe, hein, ce qu'on appelait mai 68 en France, ça a été la fin des nations, ça a été la fin de socle commun. Et sur 40-50 ans, le vide qui a été créé a été comblé par d'autres pensées politiques, et notamment l'islamisme radical.
Je voudrais juste qu'on cite, et chacun va dire un petit mot, il nous reste 3 minutes les amis, la députée conservatrice, ex-ministre de l'Intérieur, limogée d'ailleurs par Rishi Sunak il y a quelques mois, Suella Braverman, qui dit, et qui met les pieds dans le plat, comme on pourrait le dire, la vérité est que les islamistes, les extrémistes et les antisémites sont désormais aux commandes, et elle parle de son pays, la Grande-Bretagne.
Non mais il est évident que c'est le modèle du multiculturalisme qu'on a vanté pendant des années, si ce n'est des décennies, qui est en train de leur exploser au visage. Alors c'est particulièrement vrai au Royaume-Uni parce que le multiculturalisme est un mode de vie.
Et l'essence de ce...
Et effectivement, faire nation au Royaume-Uni, on voit bien que ça n'a pas le même sens que pour nous, parce qu'il faut quand même dire que ce qui est projeté sur Big Ben, c'est-à-dire cette phrase, cette inscription absolument surréaliste de la mer au Jourdain... Ça n'est rien d'autre que le fait d'appeler au génocide du peuple israélien. Ça veut dire cela. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si on projetait ça sur la Tour Eiffel. Ça paraît invraisemblable parce qu'on a ce problème dans une moindre mesure en France. Mais on voit là qu'on touche bien du doigt les limites du multiculturalisme et qu'effectivement, le nombre de personnes immigrées au Royaume-Uni pose manifestement de plus en plus de problèmes parce que le peuple britannique, maintenant, se retrouve dans une situation qui est absolument impossible.
Allez, commentaire succinct, s'il vous plaît.
Un grand paradoxe au Royaume-Uni, je crois que c'est Suella Braverman justement dont vous parliez, qui en faisait état, 1 300 000 personnes se sont installées au Royaume-Uni l'année dernière. Donc il y a un moment où, de toute façon, quelle que soit l'origine des gens concernés, ça devient très très difficile à intégrer. Et juste pour vous faire sourire, vous savez ce qu'a fait ce week-end l'organisme public britannique en charge du patrimoine ?
Dites-moi.
Il a déclaré que le mur d'Adrien, vous savez, ce mur d'Adrien qui a été construit à peu près en 120 et quelques après Jésus-Christ pour lutter contre l'invasion des barbares, était une icône gay parce que l'empereur Adrien aurait eu des relations avec des hommes. Donc voilà, mais ça montre bien pourquoi je vous raconte ça, parce que ça montre le décalage. En réalité,
il faut
aussi dire que Adrien était, puisqu'il construisait un mur contre les barbares, était une icône anti-migrant. Hein. Mais c'est tellement absurde. Mais tout ça pour vous dire que quand un pays renonce à ce point-là, quand un pays s'imprègne à ce point-là de ces espèces d'illusions woke ou wokistes ou éveillées, on les appelle ou éclairées, on les appellera comme on veut, c'est un pays qui n'est plus capable effectivement d'avoir une une conception de ce qu'il est lui-même.
Si possible, 2 fois 30 secondes entre Karim Abrik et Jean-Christophe Covey, les amis, je suis désolé.
Non, mais on parle de la Grande-Bretagne, du multiculturalisme. Je peux vous en parler aussi au Canada parce que c'est inscrit, le multiculturalisme. En fait, c'est que ça devient finalement la sacralisation des revendications des minorités. Et par peur de passer pour raciste, intolérant ou quoi que ce soit, c'est finalement la société qui adapte ses lois et c'est finalement son mode de vie à certains nouveaux arrivants plutôt que l'inverse. Et c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui.
En gros, la peur, et pour conclure Jean-Christophe Covey, la peur d'être taxé d'islamophobe est insurmontable pour les politiques. C'est la définition même du pas de vague, ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne.
Ouais, enfin, en Grande-Bretagne, c'est aussi compliqué. Effectivement, il y a les communautés, c'est vraiment la société en silo. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir dans notre pays, et c'est pour ça qu'il faut se battre. Nous, on a aussi la laïcité. Et je regarde, par exemple, les policiers anglais. Effectivement, il y a les sikhs qui mettent les turbans, il y a les voiles pour les femmes policières qui sont de confession musulmane, etc. Et nous, en France, on l'a pas, ça. Ça, on a la laïcité, et on doit jamais céder là-dessus. Et là, effectivement, c'est un choc pour le Commonwealth, j'allais dire, parce que on voit bien que c'est cette idée-là d'intégrer des peuples, et que et c'est très compliqué aujourd'hui. Bah, c'est comme le pétard. Pim, ça leur pète à la figure et ils sont en train de... Non, ça se fume pas. Non, mais
est-ce que j'étais pas sûr d'avoir saisi.
Et j'ai en fait, et c'est leur problématique. C'est leur problématique, effectivement.
Oui, je suis pas sûr.
Et on veut surtout pas tomber là-dedans. Voilà. Et c'est pour ça que la laïcité, c'est encore une fois chez nous, c'est une pierre d'édifice de notre système.
Pardon de vous couper un peu court, les amis, mais malheureusement, il est l'heure de rendre. Ah ben non, là, je suis vraiment très.
À la prochaine fois.
C'est vous qui. Sinon, vous remboursez de la publicité qui passera pas. C'est sur vous, Karima, ce soir. C'est pour vous. Je suis désolé, pardon. Vraiment, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets très importants et récurrents. Thomas Leroy, Martin Mazur, Coralie de Leplace, on prépare cette émission. Je les en remercie. L'édition de la nuit ce soir, c'est avec Michael Dos Santos, Barbara Durand plutôt. C'est encore mieux. Enfin, c'est aussi bien à chaque fois. Merci, pardon. Allez, bonne nuit. J'arrête les frais. Bonne nuit à tous. À demain.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.